L'émission qui va suivre vous est proposée en partenariat avec la librairie La Procure.
Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Alors pour les chrétiens, le Messie est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et l'on sait, et on le répète, que les Juifs attendent le Messie. Certains rigolent en disant qu'il est déjà passé, imaginant peut-être que le Messie des Juifs serait une répétition de ce que nous connaissons. Il n'en est rien. Et Pierre-Henri Salfati, bonjour.
Bonjour.
Votre livre « Dévoilement du Messie » publié chez Lithos démontre qu'il ne s'agit pas de cela, pas d'un homme appelé Fils de Dieu, mais d'une puissance extraordinaire qui viendra au huitième jour de la semaine et qui fondera le troisième temple, celui qui fait suite à l'Arche d'Alliance et au temple de Salomon détruit par les Romains en 70. Qui est ce Messie? Vous prévenez, comment accueillir le Messie quand on ne peut pas s'accueillir les uns les autres? Et vous posez fermement la question, mais qu'est-ce réellement qu'un messianisme sans judaïsme, un messie sans Torah?
Quelle question, c'est moi qui pose la question,
ouais.
C'est formidable,
dans votre
je vais essayer de me répondre. Waouh, quel programme.
Mais quel programme?
Oui.
J'étais passionné par votre livre.
J'en suis touché doublement.
Bon.
Même donc... triplement d'ailleurs.
Donc,
en fait,
qui est c'est
vrai que le christianisme et son Messie est quand même en attente du retour de ce Messie, ouais. Si j'ai bien compris.
Ouais. Comme vous dites très bien, à un moment donné, les découvreurs de terre n'existent qu'à leur retour.
Absolument.
C'est-à-dire que ceux qui partent en Amérique, s'ils ne rentrent pas, ils n'ont rien découvert.
Ils n'ont rien découvert du
alors
tout.
Que quand ils reviennent,
exactement,
c'est là.
Exactement.
Donc c'est le retour du Messie.
Et on pourrait, pour accorder les hommes de bonne volonté, dire qu'il s'agit de la même histoire, en fait. C'est-à-dire que celui que les Juifs attendent depuis, on va dire, avant le commencement, et qui tarde apparemment à venir...
Et mais il est toujours en retard.
Toujours en retard. C'était, je crois même, notre ami Kafka qui disait « Le Messie viendra toujours trop tard
ouais. ».
Il disait même, lui, trop tard. Le jour d'après, il viendra le jour d'après. Et... comment dirais-je, ceux qui attendraient le Messie depuis la nuit des temps et qui pourraient se plaindre qu'il n'est toujours pas là, et ceux pour lesquels le Messie est déjà arrivé. Et on se rend compte que même pour la religion chrétienne, si je ne m'abuse, le job n'est pas complètement terminé, c'est-à-dire que même Jésus n'a pas complètement accompli ce pourquoi il se demandait il était venu, bon, si j'ai bien compris. Donc peut-être le retour du Messie des chrétiens correspondrait à la venue du Messie des juifs. Why not? C'est une supposition. Puisqu'effectivement, il y a tellement, si vous voulez, dans l'analyse sérieuse des textes concernant qu'est ce personnage que le Messie, il y a tellement de concordances et tellement de choses qui pourraient correspondre. On sait effectivement que le Christ des chrétiens est un héros du judaïsme, un héros juif.
Bien sûr,
le roi des Juifs, dit-on.
C'est
aussi en soi une énigme assez extraordinaire. Et en fait, dans la tradition hébraïque, et même la majorité des Juifs ne sont pas au courant de ça. Tout est double. Notamment l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance. Adam et Ève, ça fait deux. Caïn et Abel, ça fait deux. Eh bien, pour ce qui est du Messie, il y a dans la tradition hébraïque, dit-on, deux messies. Appelé le premier du nom de Machiar ben Yosef, le messie fils de Yosef, et le second, Machiar ben David, le messie fils de David. À quoi ça correspond? Alors, le Yosef, le ben Yosef, c'est celui qui est en puissance, d'après le nom hébraïque, effectivement, Yosef, c'est-à-dire qui est en puissance d'être. Et le David, qui est en roi, dit-on, il est en acte. Donc, forcément, même un seul individu qui serait messie, le temps qu'il fut dévoilé comme tel, il est un messie en puissance d'être dévoilé un jour. Donc déjà, même au niveau d'une seule individualité, nous sommes tous et en puissance, et à un moment donné, peut-être bien, en acte. Mais en fait, le messie en puissance, c'est un messie qui n'est pas achevé, qui n'est pas accompli. On tire ça de la Torah elle-même, de la Bible. Quand on dit Joseph en Égypte, il vient préparer Moïse qui viendra plus tard. Donc lui, il est déjà en puissance. Que sera le salut du
peuple ? Aussi double, parce que les tables de la loi sont deux.
Exactement.
Oui, oui.
Alors les tables de la loi, merci Christophe, sont deux, mais elles ont été deux fois.
Oui. Hein?
Elles ont été, alors imaginons un Dieu, qu'on se demande à quoi pense ce Dieu, qui donne la Torah à quelqu'un qui va la briser dans un quart d'heure. Donc, ok. Et le texte, en tout cas, du Pentateuque, le texte des cinq livres, se termine par Dieu qui remercie Moïse d'avoir brisé les premières tables. Parce qu'il lui donne l'occasion, justement, de revenir sur lui-même et de lui restituer une deuxième fois cette Torah, effectivement.
Alors, dans votre livre, Pierre-Henri Salfati, Dévoilement du Messie chez Lithos, la démonstration est puissante, elle s'appuie sur les mots, leur évolution. Ainsi, on apprend que le Messie est lié à la France, qui était déjà fille aînée de l'Église, et qui est, selon vous, la terre de la germination de la messianité. Sarfati, les Français.
Les Français.
Et vous dites, que signifie l'esprit français, je vous cite. Que signifie l'esprit français dont on nous rebat les oreilles? Sur le plan métaphysique, c'est d'abord la faculté de faire prendre le plus obscur et le plus étroit pour de la lumière. Et ce, à quel prix? Eh bien, paradoxalement, la France est le pays de l'accouchement du Messie, et ce, dans l'ordre même des choses, à savoir l'obscurité qui a été faite lumière. Traduisons, la monarchie obscurantiste, qui a cédé sa place à la révolution des Lumières, sera perçue comme mensonge. Et donc, par un juste retour des choses, l'esprit des Lumières cédera le pas à la monarchie renouvelée. Entendons-nous, si cela demeure de l'ordre du symbolique, cela ne sera pas que symbolique.
Bravo, oui. En fait, regardez... La ville lumière, dit-on. Okay. Alors la ville lumière étend son doigt jusqu'au ciel avec cette tour dite Eiffel. Eiffel ne s'est jamais appelé Eiffel lui-même. C'est intéressant d'aller voir comment il s'appelait, ce monsieur Eiffel. Eh bien, curieusement, puisque c'est une leçon d'hébreu auquel vous nous avez invité, Christophe,
oui.
Eiffel en hébreu veut dire les ténèbres. Eiffel veut dire ténèbres. La ville des Lumières, porteuse d'un doigt vers le ciel, montrant finalement ses limites, et l'idée même que lumière va signifier ténèbres, on le voit d'ailleurs, les Lumières ont amené à la terreur. La raison pure amène forcément à la terreur. Les Allemands vont recopier le modèle français, les Lénine et autres Staline vont... Oui, Paul Pot disait qu'il avait tout appris de Robespierre à la Sorbonne, et on voit la terreur que ça a semé, comme si la suite de la raison pure était forcément les ténèbres de la terreur. Or, même le mot Eiffel, qui est un acrostiche du mot Aleph, de la lettre Aleph, qui veut dire enseigner, à l'envers, c'est les ténèbres. Donc, en fait, que peut-on apprendre si ce n'est finalement que la lumière est plus grande quand elle vient des ténèbres, et que simplement de la lumière issue de la lumière? Et en fait, c'est vrai que... Le mot de Sarfat, qui désigne la France, est cité par les prophètes, notamment Ovadia, qui évoque Sarfat comme le lieu même d'une révélation associée à un salut. Et effectivement, c'est de l'étymologie qu'il conviendrait de faire, puisque le mot Sarfat va donner le mot tsar en Russie, issu des mots Kaiser,
voilà,
César, la césarienne, oui. Ce qui rend étroit. Alors, c'est presque un jeu de mots, c'est que si vous analysez de façon étymologique, tsar veut dire étroitesse, et pat veut dire la pitance, le pain. Sarfat, le pain étroit. Alors, c'est un jeu de mots, peut-être la baguette, il n'y a qu'en France qu'on n'a pas le pain. On le mange à la baguette. Mais pat veut dire aussi, et c'est en ça que les prophètes l'utilisent, en hébreu, donc, pat veut dire aussi l'utérus, put, l'utérus. Donc, sarfat veut dire l'utérus étroit, l'accouchement étroit. En France, c'est un niveau extrêmement difficile à atteindre au-delà de l'horizon, parce qu'on vous nivelle par le bas systématiquement. On tient, on vous empêche d'exister. Et pourtant, la France existe. La France a un flux d'humanité.
Jean-François Rode. J'enchaîne un peu, parce que vous dites par exemple que ça correspond au chiffre 770.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous faites ça et pourquoi ça... Parce que je voulais dire aux éditeurs que votre livre est absolument passionnant sur son objet, mais il est aussi extrêmement instructif pour ceux qui, un peu comme moi, ont besoin de voir comment vous raisonnez. Oui. Et c'est une manière de rejoindre les penseurs juifs, penseurs talmudiques, penseurs même. Et on apprend. Bon, on est un peu débordé, hein, je vous le dis franchement.
C'est possible.
Mais raison de plus. On goûte à la manière dont vous raisonnez, dont vous utilisez l'hébreu, dont vous le décortiquez. Et puis, ce rapport au nombre aussi est très intéressant.
Alors, c'est vrai qu'on apprend en France A, B, C, D, E, F, etc., sans expliquer aux enfants pourquoi le A vient avant le B, et puis le C après le B, etc., l'ordre des choses. En fait, la langue hébraïque signifie un ordre, simplement parce qu'avant d'être des lettres, ce sont des chiffres. D'ailleurs, le mot chiffre ne vient pas, comme dit le Larousse de l'arabe, mais vient du mot hébreu « sefer ». « Sefer » va donner, par exemple, la lettre, le chiffre, le compte comme un comptable, le compte comme un compteur, mais surtout le mot « saphir », comme la couleur du ciel, la couleur de l'esprit. Et le mot « saphir », le ciel, est à l'origine, effectivement, de ce déchiffrage obligatoire du grand bleu, du bleu. Est-ce que dans le bleu, il y a des signes qui nous échappent? Est-ce que dans le monochrome, il y a des tas de nuances qui nous échapperaient? Et ainsi, le ciel devient chiffre qui va devenir lettre. Il est difficile pour le commun d'avoir des suites aléatoires de chiffres. Donc, ces chiffres-là, qui resteront toujours valables comme tels, deviennent des lettres. Alors, en fait, le Aleph, c'est 1, le Beit, c'est 2, etc. Donc, les herméneutes juifs, les exégèses du texte hébraïque, disons, ont affaire à un compte, à un comptage, et donc on attribue régulièrement, systématiquement même, quand on est au niveau, à chaque mot un compte chiffré. Quand vous avez par exemple le mot, enfin la lettre Aleph, qui est la première de l'alphabet, elle vaut 1, mais on se rend compte que finalement quand on l'écrit, quand on l'entend Aleph, on entend 3 lettres, A, L, F, Aleph. Et quand on la décompose en ces 3 lettres, finalement, cette 1 devient 111. 111 vaut 3, donc 1 égale 3. Vous voyez l'arithmétique hébraïque qui prend des proportions vertigineuses.
Vous comprenez que Henri Salfati écrive de façon générale la connaissance est préparatoire à la révélation.
C'est vrai, mais ne serait-ce que pour soi. Hein.
Est-ce que nous ne vivons pas...
Revenons au 770.
Oui, 770. Revenons sur le 770.
Alors, si vous voulez, donc, le chiffre 7, en général, c'est la nature. Notre visage a 7 trous. 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines, 1 bouche. Nous avons 7 notes de musique. Nous avons 7 couleurs dans l'arc-en-ciel. Nous avons 7 jours dans la semaine. Et je vous passe tous les 7. Donc, 7 représente la nature. Par exemple, le Shabbat, le 7e jour, c'est l'harmonie de la nature. Quand on sait ça, le chiffre 8, donc, c'est au-delà de la nature. Ça représenterait l'infinitude. Ce qui n'est plus de l'ordre de la nature, mais qui va dépasser la nature. Ainsi, il y a toute une symbolique des chiffres qui va vous raconter une histoire dans l'histoire. Donc, quand on dit 7, on va parler de la nature. Or, en fait, comme vous savez bien que nous sommes très simples, que c'est-à-dire ce 7 ne peut pas s'arrêter à ce qu'il est simplement, on a tendance, dans le système décimal, à diviser tout par 10, et effectivement, le chiffre 7, c'est en puissance 7 fois 10. Pourquoi? Parce que chaque élément du monde est divisable au moins en 10 sujets. Nous sommes 10 chacun d'entre nous là. Nous avons 10 doigts par exemple. Pourquoi nous n'aurions que 10 doigts? Nous avons 10 orteils, ok. Mais en fait, chaque détail de notre corps peut être divisable en 10. Nous avons 10 degrés d'appréciation des choses. Donc 7 va devenir 70. Et chacun de ces 70 aussi étant divisible par 10, ça devient 700. C'est là, symboliquement, pour ne pas faire trop long, c'est la réparation de la nature. C'est une manière, en hébreu on dit du tikkun, de réparer ce qui s'est échappé de la nature en le subdivisant comme un chirurgien ou un chimiste ou un physicien va chercher les particules élémentaires. On va aller dans le corps du sujet et cette nature merveilleuse de ces 7 couleurs, de ces 7 sons, de ces 7 jours, de cet arc-en-ciel, etc. L'arc-en-ciel, c'est un miracle perpétuel. C'est des milliards de gouttelettes qui réfracte la lumière au même moment. Donc les physiciens ont fait un pas dans le décryptage de cette harmonie du monde. Et le 770, puisque la valeur numérique du mot de Sarfat, c'est la France va pouvoir, enfin en puissance, on est toujours en puissance, décrypter toute cette harmonie qui est aujourd'hui disharmonieuse.
Alors c'est un programme, en fait. Ouais. Justement, cette disharmonie, est-ce que nous ne vivons pas en enfer? Vous écrivez « Dieu crée le monde par la parole et non par la pensée. En ce sens, il use du nom Elohim, comme l'exprime le récit de la Genèse. En ce sens, le monde est davantage l'objet de la rigueur que de la générosité. Le monde est le lieu de la frustration, de l'empêchement et de la mort. »
Alors,
c'est l'enfer, ça.
Non seulement ça, mais on est en pleine actualité. On sera au journal... Au journal des infos, on ne peut pas faire mieux.
Ouais.
Pour signifier au monde la rigueur, la restriction, la frustration dans laquelle on nous aurait placés. Puisqu'en fait, si vous voulez, nous avons notre vie, puis nous rêvons d'une autre vie. C'est-à-dire, nous avons notre vie qui n'avance que par rapport à notre vie rêvée. Et la vie que l'on rêve...
Voilà.
Pardon, la vie que l'on rêve, elle nous signifie à quel point la vie nous frustre.
Ouais.
On est tous systématiquement, et le Talmud le dit de façon péremptoire, si je puis dire, mais à la fois presque amusée, il dit « un homme accompli n'aura pas fait la moitié de ce qu'il veut ». Donc c'est comme si c'était perdu d'avance. Mais c'est donné pour...
Donc c'est une frustration.
Oui, c'est le principe de la frustration, il est opérationnel dans justement la nécessité de chercher le salut.
Peut-on accommoder le monde géopolitique à celui de la tradition?
Je crois que c'est l'essentiel aujourd'hui, oui. C'est-à-dire,
parce que on peut se poser la question et on peut y répondre d'une certaine façon. Quelques livres.
Voilà, c'est Jérusalem of Gold, interprété par Henri Lévy, bande originale du film D'une seule voix, qui était sorti, vous vous en souvenez, en 2009, et qui nous donne toujours autant d'émotions. Nous sommes, Jean-François Rode et moi, avec Pierre-Henri Salfati, pour Dévoilement du Messie, publié chez Lithos. Un livre, alors, ce qu'on disait, les 20 premières minutes sont un peu difficiles, parce que c'est un vocabulaire qui est différent, c'est un esprit qui est différent, c'est
une manière de...
Et il faut vraiment se laisser aller, parce que après les 20 premières minutes de lecture, moi j'ai été complètement pris dans le bain, et je suis allé, mais alors jusqu'au bout, mais comme un roman policier, parce qu'à chaque fois on est pris par des interrogations. Tout ce que vous dites naturellement sur Auschwitz est absolument brûlant, et de sincérité et de vérité, on l'entend rarement comme ça. Donc ça, il fallait vraiment le dire. Et alors, je reviens sur ma question. Peut-on accommoder le monde géopolitique d'aujourd'hui à celui de la tradition ?
Mais Christophe, je pense que c'est la question essentielle, en fait. C'est-à-dire, on se rend compte, nous sommes les témoins, les témoins vivants, et c'est un privilège, doit-on dire, dans l'histoire, de ce croisement effectif où le géopolitique dit son mot, et au-delà même du croisement, continue même la tradition. Comme si la tradition était déjà en soi, contenait en puissance, comme disait le Messie en puissance, le fait que le géopolitique va mettre les points sur les J, peut-être, oui. Sur les I, sur tous les lettres.
Et en même temps, les différents dirigeants d'Israël n'ont pas reconstruit le temple. Et vous dites, ils ont laissé qu'une ruine. D'un point de vue géopolitique, écrivez-vous, on peut s'interroger sur pourquoi les dirigeants sionistes de l'État juif, agnostiques, areligieux, athées pour la plupart, ne se sont jamais attelés à la restauration du lieu le plus emblématique de l'identité juive, ne serait-ce qu'à des fins symboliques, histoire de marquer le coup à la mesure de leurs ambitions. Curieux paradoxe pour des individus se voulant les pionniers d'une totale reconstruction et d'un total renouveau que de conserver en l'état une ruine comme emblème d'un avenir radieux.
Vous êtes outil là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si eux-mêmes, là, c'est l'inverse, c'est comme eux, ces géopoliticiens, sont rattrapés par la tradition, en fait.
Ouais.
Parce que ça fait partie du programme juif, si je puis dire, de ne pas reconstruire soi-même le troisième temple.
Mais
donc,
oui.
Eux-mêmes jouent le jeu sans s'en douter de la tradition pure. Tu ne dois pas reconstruire le temple. Donc, je ne pense pas que c'était ce qui les avait animés. Tout le sionisme politique et géopolitique était, comme vous le rappelez, agnostique, athée, et on voit aujourd'hui le résultat. Enfin, j'allais dire merci mon Dieu, c'est-à-dire qu'on voit à quel point on a besoin du ciel aujourd'hui. Parce que le troisième temple, c'est le croisement du ciel et de la terre, si vous voulez.
Oui.
Ça sera quelque chose où le haut devient A, c'est-à-dire le haut de révolution devient le A de révélation, c'est-à-dire les hommes. Révolution, c'est-à-dire tourner sur soi.
Mais vous l'écrivez très bien, on ne peut pas construire le temple si l'on n'est pas en paix. Or, sur l'esplanade des mosquées, c'est quand même inflammable.
C'est fou. Hein. C'est-à-dire, c'est...
Donc il y a une espèce d'interdiction. L'histoire interdit.
Voilà. Et c'est en ce sens que...
Son propre destin.
Voilà. Mais parce qu'elle n'a pas dit son dernier mot.
Non.
L'histoire n'a pas dit son dernier mot. Elle prend son temps, elle prend son temple... Hein, elle nous contemple l'histoire de ces auteurs, et c'est vrai que dans la formule que vous employez, est-ce que le géopolitique rejoint la tradition, mais la tradition n'est que du géopolitique en fait, à y bien regarder.
Mm-hmm.
C'est un programme géopolitique,
mm-hmm.
Mais le géopolitique n'est pas comme les Grecs pouvaient l'envisager. Regardez par le véritable héritage de la Grèce pour l'humanité, c'est quand même flagrant, c'est le mot polis. Tous les pays du monde utilisent le même mot. Politia, politsei, politson, où que vous soyez, la latitude, la longitude, merci les Grecs, polis, merci. Alors polis, c'est le politique, politeion, le politique,
la cité.
Et en fait, donc la Grèce nous a légué quelques vestiges, quelques miettes, et aujourd'hui c'est la polis, c'est formidable. Mais le géopolitique hébraïque dépasse simplement la polis, si vous voulez, ça va plus loin que la polis. Et limite... Comment, pardon ?
Il nous reste un peu, deux minutes environ. Vous terminez sur la résurrection des corps,
oui.
Que vous interrogez à la fin du livre. Mais est-ce que ce n'est pas d'abord l'éternité du regard, la résurrection des corps ? Nous nous reconnaîtrons par le regard d'amour que nous aurons les uns envers les autres.
Voilà, donc il faut restituer ce regard, ou il faut faire naître ce regard, ou il faut faire,
ouais.
Si vous voulez, une fable bien connue, le corps beau et le regard... de La Fontaine, si vous voulez, La Fontaine qui va jaillir comme ça. Il faut voir le corps beau du monde et le regard suivra. Oui, non, mais c'est vrai, c'est un problème de regard, en fait.
Oui.
C'est même pas dissible, c'est un problème de regard. Oui. Les yeux vont plus vite que la bouche.
Oui.
Comment changer le regard des choses? Comment faire que... Et là, c'est le ciel qui intervient. C'est-à-dire, c'est... le géopolitique devient céleste, en fait.
Jean-François Roth, vous avez juste quelques secondes, malheureusement, parce qu'on est tellement...
Je cite un bouquin formidable, on y reviendra,
oui.
De Bruno Régent, qui s'appelle « Évangile de guérison, des chemins de foi », aux éditions jésuites. C'est un commentaire, en particulier l'Évangile de Marc, des récits de guérison, mais avec une méthode très, 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 très intéressante, où il se met à la place de chacun des personnages, sauf de Jésus, qui lui n'écrit pas. Et aussi, ça rejoint notre conversation, il part d'une lecture du grec, mais à ce moment-là, mot à mot, en prenant même l'ordre des mots grecs. Donc ça fait une traduction absolument imprononçable, sauf que c'est très passionnant. Mais on y reviendra, c'est un très beau livre.
De façon générale, la connaissance est préparatoire à la révélation. Écrivez-vous fermement, Pierre-Henri Salfati. Merci pour votre livre, Le dévoilement du Messie, publié chez Litos. Il coûte 6,90 € et j'insiste sur le plaisir de lecture que vous m'avez procuré et sur les méditations qui s'en suivent. Certes, il y a beaucoup de phonèmes hébraïques, mais votre démonstration est lisible, limpide, et j'insiste auprès des auditeurs, même si vous croyez dur comme fer que le Messie est Jésus-Christ, ce dévoilement du Messie ouvre des portes formidables. Merci Jean-Paul Lirine pour la réalisation, François Dieudonné, Philippe Malpeuch, Camille Meyer et Faustine Clary pour la réalisation technique de notre rendez-vous. Demain, demain c'est vendredi, nous irons au théâtre avec mes fidèles chroniqueurs Jean-Luc Génère et Nadir Amaoui, le méchant et le gentil, pour faire débat. D'ici là, prenez soin de vous et des autres, je vous embrasse.